Cours de philosophie première de Père Marie-Dominique Philippe, 11 novembre 1999, à Saint-Jodin.
Rière, ni pour avancer dans le cours, je ne l'ai pas vu. Au cours précédent, vous avez insisté, donc avant, vous avez insisté sur l'expérience de l'amour d'amitié comme étant l'expérience la plus forte qui doit servir de point de départ, qui peut servir, hein, pas doit, je peux très bien partir de ceci ici, qui doit servir de point de départ à la philosophie première, à savoir la réalité qui me révèle le mieux l'être, c'est mon ami. Par rapport au jugement d'existence, ceci est, l'exister de mon ami serait-il alors le jugement d'existence le plus parfait? Que devons-nous entendre par le plus parfait? Le plus éloquent pour nous, l'autre, le plus éloquent pour moi, c'est pas la pierre. C'est pas l'étranger. Le plus éloquent pour moi, c'est celui qui, par ses qualités, est en connaturalité profonde avec moi et qui, dans son être, est distinct de moi. Mais c'est là où l'être, dans son caractère propre, œcuménique, le même pour tous, se manifeste le plus. Mais c'est aussi la situation la plus dangereuse. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'apprends. Il faut aimer le danger, une fois, philosophiquement parlant. Faut aimer la situation extrême. Le philosophe aime toujours les extrêmes. Parce que les extrêmes lui révèlent des choses qu'il ne verrait pas autrement. Il y a quelque chose de très particulier, ça. Oui. Et c'est là où la prudence constamment m'empêche d'être philosophe. Je perds du temps, soyons prudents, et ainsi de suite. Les hommes très prudents ne sont pas très philosophes, ils ne sont pas métaphysiciens. Il y a de propre dans la métaphysique quelque chose qu'on aime d'être... vous savez, l'écriture, on voit tellement ça. On a tous vu en montagne des biches se situer devant un abîme. Là, sur la pierre devant, cette pauvre petite biche, elle va déringoler. Pas du tout, elle regarde. C'est cette espèce de distinction, au sens très très fort, hein, la distinction. La distinction qui fait qu'on est à l'extrême pointe de la connaturalité, donc de l'unité. L'ami et moi, nous sommes un. Ah oui, phénoménologiquement, c'est la fête de la phénoménologie. Nous sommes un. Métaphysiquement, nous sommes deux êtres. Et vous avez toujours la possibilité de déraper et de faire que l'autre, à un moment donné, se révolte contre l'union trop grande avec l'ami, où il n'est plus lui. C'est tellement important, ça. Vous verrez ça, point de vue ministère. Comme aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est difficile, la fidélité dans le mariage. Comme c'est difficile. Parce qu'on est dans un climat phénoménologique. Et alors, c'est normal, vous avez vécu pendant 10 ans avec la même. Et vous étiez un. Écoutez ce que vous disiez quand vous étiez fiancé. Vous avez gardé ça. Il faut toujours dire ça aux fiancés. Gardez ça. Non, aussi, vous le montrerez. Première tentation. Qu'est-ce que vous avez dit? Oh, jamais aimé quelqu'un comme toi. Ah oui, attendons. L'autre se réveille. C'est un fait courant, il faut l'expliquer ça quand même. Et c'est pas la psychologie qui va vous l'expliquer, vous savez. C'est la métaphysique. Puisqu'elle va bien plus loin. La psychologie n'atteint jamais l'autre. Alors, on va expliquer ça par la haine. Mais non, c'est beaucoup plus profond. C'est les deux philosophies se rencontrent, la phénoménologie et la métaphysique. Et la métaphysique vous montre la réalité. Le réalisme, c'est ça. Et vous avez beau être un très pieux novice, merveilleux novice. La communauté de Saint-Jean et moi, ça ne fait qu'un. Mais non, ça ne fait pas qu'un. Vous verrez. Un jour, vous vous réveillerez. Il faut qu'on ait ce réalisme-là, vous voyez. Et c'est vrai pour la grâce. La grâce présuppose la nature, mais la grâce n'est pas la nature. Alors quand vous voulez faire que, il faut à tout prix, vous avez toujours été bien dans votre peau, c'est pour que vous avez la vocation, mais pas du tout. Ça ne veut rien dire du tout. La vocation, c'est la grâce. C'est l'autre. C'est le Christ. Le Christ est plus moi que je ne suis moi-même, et cependant il est autre. Autrement, je me dis Dieu. Ça va très loin, le réalisme. Hein. Et l'amour d'amitié fait croire que l'amour est avant l'être. Fait croire que l'amour peut se tenir tout seul sans l'être. J'aime, ah, c'est mon monde ça. La métaphysique, c'est pas réel, c'est une chose... Attention, un jour vous allez voir, l'être va se réveiller dans l'amour. Et quand il se réveille dans l'amour, vous êtes bien obligé de reconnaître là que, oui, j'aime. Et ce qui est bon, ce qui est extraordinaire, c'est que la métaphysique aide l'amour. Ce que j'aime, c'est l'autre. Ce que j'aime, c'est l'autre. C'est pas celui qui est semblable à moi, parce que celui-là, il me fatigue. Toujours avec soi, c'est fatigant. Hein. Tu comprends, quand on est avec l'autre, surtout si cet autre en vaut la peine, c'est très reposant. Vous vous reposez pas sur vous-même, sauf quand vous êtes trop vu, alors votre tête repose sur vous-même. Ça repose sur vous. Mais ça, c'est pas drôle. Notre tête repose sur un autre. C'est le réalisme métaphysique, c'est ça qui fait saisir ce qu'est l'amour. Et c'est vrai, je montre que l'amour peut être un moment où je me trompe. Et je ne veux plus être réaliste. Alors ça ne se présente jamais comme ça. Hein. Ça se présente sous la forme d'homme. Sous la forme d'une tentation, donc d'un brouillard. J'aime le brouillard pour comprendre ce que c'est que la tentation. Et dans le brouillard, vous allez très très vite, mais vous trouvez tout un coup nez à nez devant une voiture en face de vous qui est arrêtée. Ça, c'est la réalité. Vous pensiez que vous étiez seul, il n'y avait pas d'obstacle. Parce que c'est un brouillard, la phénoménologie. C'est un brouillard extraordinaire. C'est ça. C'est moi. Ça vient de moi. Rien n'est plus beau que ce qui vient de moi. Or, quand j'aime, l'autre, c'est pas moi. Mais mon amour, c'est moi. Donc, c'est bien supérieur à l'autre. Et je reste dans mon amour, dans ma bulle affective, imaginative. Et j'aime de la gonfler. Et elle gonfle toute seule. Ouh, c'est extraordinaire ce que j'aime. Personne n'a aimé comme moi. Alors au moins sur un point, je suis au-dessus de tous les autres. Pas au point de vue de l'être, parce que l'autre il est aussi à côté de moi. Il existe. Mais au point de vue de l'amour. Écoutez le langage des amoureux qui ne sont pas philosophes. Alors vous dites, mais oui, la phénoménologie, c'est la philosophie. La phénoménologie, c'est la philosophie de l'amour. Oh oui, oui. de l'amour imaginatif. Ajoutez tout de suite ça. Oui, oui, de l'amour imaginatif. Attendons le lendemain, quand il se réveillera et qu'il verra que celui qu'il aime, c'est un autre. Et quand il l'aimait, c'était l'autre aussi. Mais l'amour était tellement fort qu'on restait dans sa bulle. Ça dit très bien ça. L'autre n'a qu'à souffler dessus. Mais vous, vous ne soufflez jamais dessus. Au contraire, comme c'est bien de rester dans sa bulle. Alors vous voyez, par rapport au jugement d'existence, ceci est l'exister de mon ami serait-il alors le jugement d'existence le plus parfait, le plus proche de moi, le plus délicat à faire. Mais parce qu'il est le plus délicat, il est le plus merveilleux. Je dirais le plus merveilleux, le plus parfait, mais merveilleux. C'est quand même merveilleux de voir celui que j'aime est autre. Alors si vous poussez, si vous êtes chrétien, vous voyez que l'autre, dans la très sainte Trinité, il est identique. Alors là, c'est le sommet. Le Père et le Fils sont un, et il n'y a pas deux qui sont si autres. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est le mystère. Mais on est peut-être tenté par le mystère. Je crois que quelqu'un comme Hegel est tenté par le mystère. Et le mystère, c'est lui. Alors, on est un dans l'être, et dans la vie, on est deux. Faites la même chose là, et vous voyez, et c'est là où vous voyez que le réalisme de l'amitié, loin d'écarter la très sainte Trinité, dit mais c'est parfaitement réalisé en Dieu. Alors ça, tandis que si vous êtes féminologue, vous ramenez la très sainte Trinité à l'unité. Et vous n'entrez plus dans le mystère. Le réalisme maintient toujours le mystère de l'être, le grand mystère de l'autre. Il y aura toujours dans l'autre quelque chose que vous n'arriverez pas à saisir. Vous le saisirez spéculativement en disant « ceci est ». Alors vous ramenez l'ami à ceci. C'est triste, hein ? Pour que l'altérité, l'autre, apparaisse parfaitement. Parce que l'ami, c'est le ceci le plus parfait qui soit. Alors, vous voyez, par là, vous comprenez. C'est le ceci le plus parfait. Cherchez quelque chose de plus parfait que l'ami pour le ceci, ceci est. Alors, à la place du ceci, faites passer l'ami. L'ami est. Si l'amour que j'ai pour mon ami nécessite sa présence en acte pour l'exercice de cette amitié, sa présence en acte, oui, y aurait-il au plan métaphysique une distinction à faire entre la présence de l'ami et son être ? C'est sûr. La présence de l'ami, c'est l'ami pour moi. Quand je suis présent à quelqu'un, je suis là tout à toi. C'est ce que vous répondez spontanément quand, étant un peu fatigué ou très préoccupé, quelqu'un que vous aimez beaucoup arrive. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Tu n'es plus du tout présent. Mais oui, parce qu'on est présent par celui qu'on a quitté affectivement. On vient de recevoir une lettre un peu tragique. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est à la mort. Vous pensez à ça, l'ami arrive à celui, lui n'est pas du tout au courant. Mais qu'est-ce que tu as ? Tu n'es pas là, tu es absent. Ah, tu es très fatigué. Parce que la fatigue a l'immense avantage, c'est que ça couvre tout. Vous pouvez toujours dire quand vous êtes absent, mais oh, je suis très fatigué. C'est le brouillard. Parce qu'on est fatigué, on est brouillard. C'est le brouillard. On n'est pas encore sorti du brouillard. Le brouillard des Pays-Bas. Et Ils envoyaient des Pays-Bas, en dessous du niveau de la mer. Ce brouillard extraordinaire, un brouillard épais. Et c'est magnifique, hein. C'est le pays de la fumée. C'est extraordinaire, ça, c'est très étonnant. Alors quand on en sort, oulala. Alors, comprenons bien. La distinction pour la présence, il faut que l'ami soit autre. La présence. La présence implique la dualité. Et non pas l'unité. Et quand les psychologues parlent de fusion, ils disent comme ça, mais ils ne le disent pas avec la précision de la métaphysique. C'est découvrir l'être de l'ami. Il n'y a pas de fusion dans l'être. Dans l'être, il y a l'unité et l'union. Dans la présence, c'est une union de deux êtres. Ce n'est pas l'unité. Donc la présence réclame l'altérité dans l'ordre de l'être. Deux personnes. Et c'est pour ça que si vous ne voyez plus l'être de l'autre, la présence devient fusion. Il n'y a plus de présence. Et donc, il n'y a plus de repos. On se repose dans la présence de l'autre. On ne peut pas se reposer dans l'unité avec l'autre. C'est imaginatif. L'imagination ne se repose jamais. C'est la plus belle des choses qu'Aristote ait dit. L'imagination est toujours en mouvement. Tout le temps en mouvement. Il n'y a pas de repos. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'altérité. Et la fameuse vie, c'est la grande victoire de l'imaginaire. C'est la grande victoire de l'imaginaire dans la fausse unité. Et c'est tout à fait net, vous voyez, Husserl l'avait très bien compris. Husserl l'avait dit à Fémogie, la mise entre parenthèses de l'être, du poquet. La mise entre parenthèses de l'être. Le poquet fait qu'il n'y a plus que la similitude et l'unité. Et lui, vous voyez, et l'unité dans la qualité. On est tellement un qu'on ne se dispute jamais. Oui, parce que vous avez mangé l'autre. On ne se dispute plus. Vous l'avez anéanti. Vous l'avez tué dans son altérité. Alors il vit encore un tout petit peu, il s'agit encore un tout petit peu, mais au bout d'un certain temps, il ne s'agit plus du tout. Complètement annihilé. Alors, troisième point. Pourquoi dites-vous que la présence est le point de départ commun de la philosophie première avec la philosophie. Le point de départ commun, vous voyez, le lieu où la confusion peut se faire. Donc, je peux dire aussi, le lieu où il y a contact. La philosophie parlera de la présence. Je parle de la présence dans l'amitié. L'homme n'est vraiment présent que quand c'est mon ami. Tant qu'il n'est pas mon ami, il n'est pas réellement présent. Il n'est pas totalement présent. Il est réellement présent, physiquement, mais affectivement pas totalement. Tandis qu'avec l'ami, il est présent. Pleinement. Alors, la phénoménologie fait que la présence est prise en soi. La présence devient la substance. Il n'y a rien au-delà de la présence. Il ne peut rien avoir. La présence, c'est le dernier moment. J'allais dire, c'est à ce moment-là où l'autre agonise, hein, dans l'ordre métaphysique. Il est présent, mais il n'est plus autre. Et c'est vrai, ça. Et sois entièrement présent, sois là, sois là. Alors qu'est-ce qu'il faut? Tu manges. Alors là, je serai vraiment présent. Je serai en toi, mais je serai plus autre. Quand vous assimilez l'aliment, ça vous en apercevez surtout quand c'est quelque chose de très bon. Quand c'est quelque chose de pas bon, vite, ça se termine. Hein? Quand c'est très bon, oh, déjà fini. Il n'est plus autre, il est mangé. Vous voyez la présence, c'est comme le dernier moment de l'altérité de l'être. C'est pour ça que la philologie parle de la présence. Mais en réalité, ce n'est plus la présence, c'est l'agonie de la présence. Parce que n'est présent que l'autre qui répond. Si l'autre ne répond plus, et le moment terrible, n'est-ce pas, quand vous aimez quelqu'un et que vous assistez à son agonie, à un moment, il ne répond plus. Et vous vous affolez. Est-ce qu'il vit encore? Mais répond, répond. Vous voyez? C'est extrêmement curieux, ça. Et c'est important, parce que c'est ça, la présence. La mort supprime la présence. Hein? Il y a le cadavre. Le cadavre n'est plus la présence de celui que j'aimais. J'aime le cadavre de mon ami comme le dernier signe de sa présence. Mais ce n'est plus sa présence, c'est le signe ou le symbole de sa présence. Alors, il y a une réponse à la présence. Pour répondre, il faut être autre. Et quand vous lancez une balle sur un mur, la balle revient. C'est la réponse. Ce n'est pas la même chose que quand vous lancez une balle et que l'autre renvoie la balle. Il y a deux renvois totalement différents. Quand c'est le mur qui reçoit et qui renvoie, vous savez, ce n'est pas une vraie réponse. C'est vous. C'est vous qui faites l'aller et le retour. Alors qu'en réalité, je fais l'aller, l'autre fait le retour. Deux choses différentes. Il y a l'altérité qui joue là. Alors la présence, voyez, du côté de la phénoménologie, c'est le dernier moment commun entre le réalisme et le réalisme. Mais la présence vécue d'une façon phénoménologique est dépassée par l'unité. La présence dans le réalisme me conduit à l'altérité de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a les frontières entre les deux. Pourquoi dites-vous que la présence est le point de... Bon, mettez frontière commune, c'est peut-être plus juste, de la philosophie première avec la phénoménologie. Dans la mesure où le phénoménologue demeure dans une présence intentionnelle, tandis qu'en philosophie première, on part du jugement d'existence, où on rejoint, on peut dire ça, on rejoint le jugement d'existence qui implique la présence actuelle, la présence existentielle de l'ami. La présence dans l'ordre de l'être de l'ami. Tandis que de l'autre côté, la phénoménologie fait qu'on reste dans l'intentionnalité. L'intentionnalité, et dire ça, l'intentionnalité a ce privilège que l'intentionnalité peut absorber l'altérité. L'absorbe. Tandis que la véritable intentionnalité est là comme témoin de la distinction entre le réel et ce qui est vécu intellectuellement, ce qui est vécu affectivement, c'est le vécu. L'intentionnel, c'est toujours le vécu. Le vécu dans mon intelligence, le vécu dans mon amour. Il y a ces deux vécus différents. Aussi est-il que je ne comprends... Ah, non, Je ne comprends pas pourquoi, par rapport à la manifestation de la présence de l'ami, vous avez seulement parlé du regard et du toucher. Qu'est-ce que le sourire? Oh, tout à fait d'accord. Le sourire est parallèle, c'est entre les deux, ça unit les deux. La présence, le toucher et le regard. Et dans le sourire, c'est un regard affectif, de complicité. Donc c'est entre les deux, j'avais pas les deux extrêmes. Vous ajoutez le sourire, je suis d'accord, pas du tout d'opposition. Au contraire. Que pensez-vous de l'intention de l'être? De raison. Pourquoi a-t-elle eu cette intuition de l'être à partir de l'exister du chat ou du brin d'herbe et non pas grâce à l'exister de son ami et époux Jacques Marita, avec qui elle a vécu longtemps. L'intuition de l'être. C'est très vrai, l'intuition de l'être demeure d'ordre intentionnel. Vous voyez, quand il y a une intuition, vous ne voyez pas ce qui est, ce qui vous dépasse. Vous pensez saisir pleinement. C'est ça l'intuition. C'est la joie de l'intuition. C'est qu'on saisit pleinement la relation. Une relation, je peux l'étreindre. L'exister de l'être, je ne l'étreins pas. L'intuition de l'être, c'est une évidence, tout est clair. Alors, pourquoi Jacques n'a pas pris l'intuition de l'être dans l'amitié avec Raïssa? C'est que justement, Raïssa existait plus que le brin d'herbe. Alors, comme elle existait plus que le brin d'herbe, il était obligé de dire que jamais son intuition sur Raïssa a épuisé la réalité Raïssa. Ça, c'est vrai. Quand vous dites, ah, j'ai compris mon ami, j'ai son intuition. Mais non, vous ne dites pas tellement ça. Dans l'amitié, c'est rare que vous employiez, j'ai l'intuition de mon ami. Non, je commence à le comprendre. Je commence à le saisir, à voir son altérité et son unité. Je commence à mieux voir. Je ne projette pas sur lui encore tout mon amour. Il y a des amis comme ça qui, vous êtes, lui est fatigué, donc vous êtes fatigué. Lui est dans la joie, donc vous êtes dans la joie. Hein? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il projette sur vous tous les sentiments qu'il a. On est tellement un que tous mes sentiments, c'est les vôtres, c'est les tiens. Tu n'as pas d'autres sentiments que moi. Alors, à ce moment-là, ça vous réveille, vous dites, tiens, c'est inquiétant. Ça vous offre au fond, il n'a jamais saisi mon altérité. Il manque de réalisme. Et cette amitié ne peut pas durer. Elle ne durera pas. Ça se terminera d'une façon tragique. Ça sera comme une déchirure. Il a cru que la similitude faisait l'amitié. L'amitié, c'est entre deux personnes distinctes. Alors, dernier, je ne comprends pas cette affirmation « l'ami est un autre moi-même ». Que veut-elle dire? Du point de vue de l'intentionnalité, pas du point de vue réel. Et, alors, c'est une très belle formule, comme souvent dans la philologie, il y a de très belles formules. Parce que toute la beauté est dans la formule. Pas dans la réalité. Oui, le réalisme philosophique regarde moins la beauté de la formulation que la philologie. La philologie, vous comprenez, c'est une philosophie de la parole. C'est une philosophie de ce que je connais du vécu. Et la parole communique le vécu. Quand vous êtes dans une très forte émotion, votre parole se ressent. Ce n'est pas la même chose. L'intonation n'est pas la même. Et le vécu. pouvez pas séparer le vécu de la parole. Tandis que vous pouvez distinguer le vécu du jugement d'existence. Alors, on continue maintenant. Mais c'est bien d'avoir montré ça. C'est capital, oui, ce point-là. C'est pour ça que j'ai commencé exprès par l'amitié. J'aurais pu tout simplement rester comme l'année dernière sur ceci, ou bien il y a 3 ans ceci. Non. Parce que je vois de plus en plus la séduction profonde de la fémologie. Mais quand la grâce du noviciat sera terminée, faites attention, en entrant en théologie, de bien distinguer l'intentionnalité de la réalité. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'intentionnalité. Et donc, dans l'ordre surnaturel, l'intentionnalité est le réel. Les sacrements, c'est intentionnel, puisque c'est un signe intentionnel, les sacrements. Et en même temps, c'est un signe efficace. Hein, c'est la réalité. Et on confond tellement vite le point de vue surnaturel et le point de vue naturel. Et vous oubliez que la grâce présuppose la nature. Et vous croyez que la grâce assume la nature. Complètement. Comme en Jésus. En Jésus, c'est l'unique où le Verbe assume la nature humaine. Il n'y a plus qu'une seule existence divine. Qu'une seule personne divine. Mais pas en nous. La grâce n'assume pas toute ma nature humaine. Il y a toujours des petits restes. Les conséquences du péché. Qui ne sont pas assumées par la grâce. Et donc qui restent extérieurs. Et alors, si on n'est pas très attentif, très vite, on tombe dans ce qu'on appelle l'ontologisme, et de l'ontologisme, on entre dans la phénoménologie. Des cascades successives. Et on projette son intentionnalité sur le réel. Et on ne voit plus le réel qu'à travers son intentionnalité. Et à ce moment-là, on est incapable d'aimer l'autre. On s'aime dans l'autre. Pas du tout la même chose. S'aimer dans l'autre. Je suis tellement heureux que tu sois mon ami, parce que je me retrouve entièrement en toi. Alors à ce moment-là, l'ami dit, c'est intéressant d'être l'ami. On est complètement l'autre qui, soi-disant m'aime, mais en réalité, s'aime en moi. C'est pour ça que c'est, vous voyez, c'est là où la métaphysique purifie radicalement l'amour d'amitié. Et c'est une purification radicale, ça. Et c'est pour ça que si je prends exprès en métaphysique l'amour d'amitié, pour bien comprendre cela, je suis en face d'une expérience unique. Et parce que cette expérience est unique, elle risque de me séduire. Et restons dans cette expérience. Il n'y a rien de plus élevé que mon expérience d'amitié. Alors je ne comprends pas qu'on n'y reste pas tout le temps. Alors on fait la petite dinette. Il ne faut pas quitter mon ami. Alors je ne peux pas, il faut quand même vivre la vie commune. Alors on va faire une vie commune à plusieurs dans l'amitié. C'est plus la vie commune. Ah non, c'est plus la vie commune. C'est votre amitié phénoménologique qui en part de tout. La vie commune a ceci de merveilleux, c'est le réalisme de l'autre. Il n'est pas choisi. Il est imposé par Dieu. Et Dieu n'a pas les mêmes goûts que moi. Parce que Dieu est plus réaliste que moi. Et Dieu aime plus que moi. Et il veut la catholicité, l'universalité. Tandis que je m'enferme dans mon petit rond. Alors, on n'est pas 2, on est 8. Oui, mais si Les 8 sont choisis dans un prolongement des 2. Ça ne gênera pas, ceux-là, ils comprennent. Ils sont intelligents, ils comprennent. Les autres, ils ne comprennent pas. Alors, on a le petit ronron du chat en face du feu. Le chat, quand il a chaud en face du feu, il est ontologique. Il est dans la phénoménologie. Mon petit chat phénoménologue. Oui, parce qu'il se retrouve tout le temps. Il lève la patte et il se regarde dans la glace. Et la glace, il lève encore la patte. Il est merveilleux. Il ne fait rien en dehors de moi. Quel ami, merveilleux. Ne rien faire en dehors de moi. Mais c'est je deviens l'idole. Je deviens l'idole. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Et Dieu ne le dit pas. Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Oui, ça, il le dit. Mais ça, il le dit au plan surnaturel. Il ne le dit pas au point de naturel. Alors le philosophe se pose la question, est-ce que c'est souhaitable de souhaiter à mon ami d'être comme Dieu? Parce qu'à ce moment-là, il ne sera plus avec moi. Ça, c'est le réalisme d'Aristote. C'est pas contre Dieu, pas du tout. C'est qu'il montre qu'est-ce que c'est que l'autre. Alors, continuons à entrer dans le mystère. Cette expérience de la présence et qui est vraiment, ça, je crois vraiment, un point de contact. C'est très beau la présence. Vous voyez, les néo-platoniciens expriment la connaissance par la présence. C'est vrai que la présence exige la connaissance. Mais la connaissance n'est pas la présence. C'est un amour d'amitié réciproque, de deux amours qui se rencontrent et qui s'envoient la balle. La balle est dans ton camp. C'est moi le dernier qui t'ai aimé. Alors maintenant, aime-moi. Pour envoyer la balle de l'autre, dans l'autre camp. Et c'est réciproque. Et cette réciprocité, c'est qu'à un moment donné, j'arrête la balle entre les deux. Je peux l'arrêter entre les deux. La présence. On est présents l'un à l'autre. Dans l'amour réciproque que nous avons l'un pour l'autre. C'est donc un amour d'amitié qui fait la présence. Et c'est quand j'aime beaucoup un paysage, que ce paysage devient présent. Une vraie présence. Il me parle. Quand j'aime beaucoup ce petit chien, et ce petit chien, dès qu'il me voit, il fait le beau. Oh, suspendu. Il est suspendu. Comme c'est admirable. De voir quelqu'un qui m'est totalement suspendu. Bien mieux que mon ami. La présence. Très curieux la présence. Et c'est très important de voir que les néo-platoniciens confondent connaissance et présence. Alors que c'est une connaissance particulière qui est la connaissance affective et pas la connaissance spéculative. La métaphysique est une connaissance spéculative. Donc une connaissance où l'objectivité est implacable. C'est le côté implacable de la métaphysique. C'est qu'on regarde le point de vue objectif. On regarde l'être dans l'autre, l'être dans l'ami. Alors vous me direz, mais c'est bien plus parfait de regarder l'ami en tant qu'ami et non pas en tant qu'être. Hein ? Je suis persuadé que ça revient comme tentation, ça, et comme objection. C'est vrai. Il n'y a que l'ami qui est présent, c'est pas l'être. C'est très juste. Il n'y a que l'ami qui est présent. Et quand je vis trop dans la présence de l'ami, c'est pour ça que c'est bon que chacun ait son métier, que chacun ait sa vie, pour que l'amitié demeure. Et des petits groupes d'amitié dans le grand groupe de la vie commune risque le beurre moisisse, devient rance. Il y a des amitiés rances. Elles deviennent phénoménologiques. Il n'y a plus que la présence qui compte. Il n'y a plus que l'affectivité qui compte. Il n'y a plus le réalisme de l'autre. Et petit à petit, vous contaminez l'autre. Alors que l'ami doit permettre à l'autre d'être plus autre, d'être plus lui-même, l'amour d'amitié fait que l'autre devient rance. Il perd son altérité. Il perd d'être lui-même. D'être vraiment lui-même. Voyez, il n'y a que Dieu qui peut me prendre totalement. Il n'y a pas de danger parce qu'il me crée comme autre que lui. Et il maintient son acte d'amitié. Il maintient son acte de créateur dans l'amitié qu'il me donne au plan surnaturel. Et ça qui est très étonnant. Il n'y a pas de danger que Dieu mette la main sur moi. Il n'y a pas de danger que la charité divine devienne rance. Quand elle est charité divine, si elle devient humaine, oui. C'est très curieux, ça. Et c'est très, très important de voir ça. Alors, dans cette présence, si cette présence est vraie, l'autre, parce qu'il m'aime, devient plus libre. C'est l'amour qui est source de liberté. Et ce n'est pas la liberté qui est source d'amour. Vous voyez, là, il faut aussi se corriger. Hein, parce qu'à cause de Descartes, on est tous un peu cartésiens. Tous un peu. Quand on est européen, on est tous un peu. Quand on est américain, il y a moins de danger. Mais quand on est européen, il y a ce danger-là. Descartes joue un rôle. Et ça compte. Donc, c'est l'amour qui est source de liberté. Si l'amour d'amitié devient rance, c'est-à-dire si l'amour d'amitié perd ce réalisme métaphysique que l'autre est toujours autre, même si je l'aime, mon amour n'est pas un amour divin, il est dans la charité. Mais alors là, à ce moment-là, j'agis comme Dieu. Il n'y a que Dieu qui réalise l'être à partir de l'amour, puisque l'acte de création est un acte gratuit d'amour dont le fruit est l'être créé. Et ça, c'est le propre de la création. J'en suis incapable. C'est pas moi qui crée l'ami. Non. L'ami existe avant que je l'aime. Et parce qu'il existe avant que je l'aime, je respecte son altérité. Il n'existe pas à cause de mon amour. Ça, ce serait me faire Dieu. Et donc, je deviens idole pour mon amour, pour mon ami. Et ça, c'est très mauvais. Ça corrompt son amour. Je respecte donc toujours l'altérité de l'autre dans sa présence. Et pour respecter pleinement l'altérité de l'autre dans sa présence, il est bon que chacun ait son travail. Par le travail, il rejoint l'autre, la matière. Et il ne s'identifie pas avec la matière. Ça deviendrait trop grave. Vous voyez comment le travail est nécessaire pour maintenir l'altérité. Et c'est là où la vie commune est merveilleuse. Et qu'une véritable amitié respecte la vie commune. Tu dois faire ça à telle heure. Je respecte. Moi, je fais ça aussi. Chacun est à son travail. Chacun est à son boulot. Chacun est à son devoir d'État. Et ça maintient l'altérité dans l'ordre de l'être. Et donc, rend l'amour d'amitié sain. S-A-I-N. Et en même temps, saint, S-A-I-N-T. C'est vrai, ça qui est très très curieux. Et ça, c'est magnifique de comprendre ça. La santé de l'amour d'amitié est sauvegardée par la sainteté. Parce que la sainteté fait que plus on s'aime, plus on aime la volonté du Père, au plan de vue surnaturel. Et plus on aime la volonté du Père, plus on respecte que le travail de l'autre n'est pas mon travail. Que la sainteté de l'autre n'est pas ma sainteté. Deux amis véritables savent qu'il y a quelque chose de différent, que le lien avec le Père est différent. Il y a quelque chose d'unique qu'on respecte infiniment. Et le jour où on ne le respecte plus, attention, vous sonnez le glas de l'amour d'amitié. C'est fini. Parce que vous n'avez plus le respect de l'autre dans sa personne. Et le jour où vous n'avez plus le respect de l'autre dans sa personne, vous faites de l'ami l'esclave. Affectivement. Et là, ce n'est plus l'ami. Il y a là une exigence très très profonde, vous voyez. Et là, je passe donc de la présence à ce réalisme de la personne. Mon ami est une personne autre que moi, et identique à moi dans la similitude, parce que nous avons les mêmes sentiments, la même affectivité. Alors, je continue. Quand je découvre dans l'ami l'autre, je peux me poser la question, alors, qu'est-ce que c'est que l'être ? Au plan métaphysique, hein ? Puisqu'on se sert de l'amitié pour découvrir ce que c'est que l'être. Et j'ai parfaitement le droit de le faire, puisque je sais, par expérience, que au-delà de la connaissance affective, il y a une connaissance spéculative. Vous voyez, le primat de la connaissance spéculative sur la connaissance affective. La connaissance affective est une connaissance pratique. Ce qu'il y a de plus élevé dans le pratique, c'est la connaissance affective. Ça, c'est le plus élevé. C'est la connaissance que j'ai de mon ami. Et je vis cette connaissance. Et j'en ai l'expérience. Mais il y a quelque chose de plus grand, c'est la connaissance spéculative, parce qu'elle me conduit à la vérité totale. Tandis que la connaissance affective ne me conduit pas à la vérité totale. Vous voyez, là, il y a un moment très très important à saisir. Je ne quitte pas l'amour d'amitié en passant à l'analyse philosophique. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Ne faites surtout pas une sorte de rivalité entre amitié et métaphysique. C'est très important, ça. Parce que là encore, si vous faites cette rivalité, vous direz, ah, ce qui est merveilleux dans la phénoménologie, c'est que je ne quitte jamais l'amour d'amitié. Et c'est vrai. Je reste enfermé dans l'amour d'amitié. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans la philosophie réaliste, c'est que je sais que l'amitié est pour moi l'expérience la plus merveilleuse pour que mon intelligence contemplative, quand on dit spéculative, ça veut dire contemplative, que ma connaissance contemplative peut rechercher la vérité. Et elle recherche la vérité en se posant la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Puisque la vérité ne sera parfaite que lorsque j'aurai découvert l'être premier. Lorsque j'aurai découvert celui qui est source de mon exister d'homme. Source de mon exister de je suis. De mon je. De ma personne. Vous voyez, ce passage est très très important. De l'affectivité dans l'amour d'amitié, qui est si belle, si grande, qui se noie, vous voyez, quand je dis se noie, risque de se noyer, dites plutôt, elle risque de se noyer dans la présence. Ah, c'est merveilleux cette présence, il n'y a rien de plus. Oui, il y a quelque chose de plus, la contemplation. La présence affective n'est pas la contemplation. Je ne peux pas contempler mon ami comme s'il était Dieu. Je ne peux pas. Je sortirai du réel. Je ne serai plus dans le réel, je serai dans l'imagination. Quand je contemple mon ami, j'en fais un peu mon idole. Cause exemplaire. Rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que mon ami. Rien n'est plus beau. C'est vrai, rien n'est plus beau que mon ami, ça c'est vrai. Mais pas rien n'est plus bon. Mon ami n'est pas le terme. Mon ami n'est pas l'être suprême. Ah, je voudrais bien qu'il soit l'être suprême de temps en temps. Mon idole. Je pourrais identifier mon amour d'amitié et mon adoration. Ce serait tellement merveilleux. Vous voyez, alors la présence peut être une tentation de m'empêcher d'aller plus loin. De chercher la vérité. La vérité tout entière. Là, je suis obligé de savoir qu'est-ce que c'est que l'être de mon ami. Qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce qui est premier dans l'être? Est-ce que ce qui est premier dans l'être, c'est mon ami? Ou c'est quelque chose d'autre que mon ami? Vous voyez la question, hein? Elle est très très importante de la poser avec beaucoup d'acuité, beaucoup de lucidité. C'est l'interrogation. Mon interrogation a ce pouvoir de dépasser l'amour d'amitié. Quand je cherche la vérité, je cherche qu'est-ce que c'est que l'être. Je ne peux pas aller plus loin. C'est l'être qui est fondamental et qui est premier pour mon intelligence. Alors je pose la question. Et c'est en posant la question que je vais découvrir le dépassement de l'amour d'amitié dans l'être. Qu'est-ce qui est premier dans l'être? Ce n'est pas l'amour d'amitié. L'amour d'amitié est un moment merveilleux, une oasis étonnante au plan métaphysique. J'aime de rester là, dans la présence de mon ami, mais je dois me réveiller et me poser la question, mais qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'être?
Cours de philosophie première de Père Marie Dominique Philippe, le 18 novembre 1999 à Saint-Gérard.
Nous étions restés à la présence, interrogeant toujours, il ne faut pas l'oublier, c'est l'interrogation qui est l'âme de l'induction. Donc c'est l'interrogation qui nous oblige d'aller toujours plus loin. Parce que la présence, c'est quelque chose de très grand. C'est présence, une personne à une personne. C'est quelque chose qui n'est pas simple, parce que ça varie énormément les présences. C'est une relation personnelle, complexe. Puisque c'est une relation, il y a le fondement de la présence. Qu'est-ce qui fait le fondement d'une présence? Quand on est présent à quelqu'un, présent à un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, la présence de tous les jours, au point de vue monastique, on ne se dit pas bonjour tous les jours. On n'a pas besoin. Vous n'allez pas vous précipiter sur votre frère tous les jours. Bonjour, bonjour. En allant à la chapelle le matin. Non. C'est une chose assez particulière. On ne se dit pas bonjour. Pas du tout parce qu'on ne s'aime pas, mais parce qu'on vit ensemble. Alors il y a une espèce de présence beaucoup plus forte. On dit bonjour à quelqu'un qui a été écarté, éloigné, qui vivait loin. On dit que dans une vie monastique, dans une vie religieuse, on se côtoie le matin, c'est sûr. On se rencontre, mais et on est présent. La qualité d'une présence, c'est parce qu'on a la même vie. Alors on habite, on demeure dans le même lieu. L'église est dans le monastère. C'est ça qui caractérise aussi la vie monastique. On ne quitte pas le monastère pour aller à l'église. Les gens pieux font ça. Le matin, ils quittent leur maison pour aller à l'église. Et en rencontrant les gens qui vont à l'église, ils disent bonjour. Parce que ces gens habitent autre part. Tandis que dans le monastère, l'église est dans le monastère. Il est présent. Et je peux le considérer ça au point de vue purement philosophique. Hein. Puisque la philosophie s'intéresse à la vie religieuse. Et religieuse ont cette particularité d'avoir à l'intérieur de leur couvent, de leur monastère, toute leur vie. Immanente. La vie est immanente. Hein. Et plus la vie est parfaite, plus elle est immanente. Et elle réclame cette immanence. C'est pour ça que ce qui caractérise la vie monastique, la vie religieuse, c'est qu'il y a une immanence plénière, puisque l'adoration, elle est chez nous. Et dans la vie chrétienne, alors, le chrétien s'aperçoit que l'immanence est encore plus grande. Qu'est-ce qui fait la présence de quelqu'un? C'est la qualité propre de ce qui fonde cette présence. Il y a une certaine similitude de vie. Une vie où il y a la même finalité. C'est ce qui fait une famille. Hein. Une famille a la même finalité. Quand on est deux familles à côté, on ne vit pas la même. Sur le même toit. Et cette similitude, elle est faite, comme toujours, notre vie. Elle est faite de notre finalité, mais elle est faite aussi de l'organisation propre de notre finalité. On organise les divers moyens pour atteindre la fin de telle façon. Et on a une organisation commune. On ne met pas tous les jours en cause l'organisation parce qu'il y a une autorité qui a précisé d'avance tous les moyens de la journée. Tous les jours, vous ne vous reposez pas la question dès que vous levez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vite, un bout de papier, j'organise ma journée. Non, elle est déjà organisée. Et l'organisation d'une journée, ce sont les diverses opérations qu'on fait. Ce sont les moyens qui nous permettent d'atteindre notre fin. Et ces moyens qui nous permettent d'atteindre notre fin, c'est vraiment nos opérations vitales. Et ces opérations vitales, elles sont déterminées par des déterminations particulières. Vous voyez, je prends l'organisation d'une journée. Et tout ça est en vue d'une présence. C'est sûr. La prière. La prière est un moyen, elle n'est pas une finalité. Elle est un moyen. Qu'est-ce qui détermine la prière? C'est votre, petit à petit, c'est votre qualité religieuse, l'adoration. L'adoration, vous n'avez pas un contact direct immédiate avec Dieu, vous l'avez par l'adoration. Et l'adoration est une opération très qualitative. Elle repose sur la connaissance que vous avez du Créateur de votre âme. C'est ça, la qualité de l'adoration. Et quelquefois, on se laisse mener docilement, on suit les autres, on n'a même pas pensé qu'on allait prier. Ça arrive, le somnambule. Il n'y a pas le somnambule de la nuit, il y a quelquefois le somnambule du matin. C'est celui qui se laisse mener, tout simplement, qui ne fait pas un acte d'adoration le matin, tout de suite, adorer Dieu, seul, au pied de son lit. Ça, c'est le réveil. Et quand on ne fait pas ça, vite, on est en retard aujourd'hui, à toute vitesse. Et on fait tout, mais finalement, et l'adoration est télescopée. Quand vous regardez ce que c'est que l'adoration, il y a une connaissance de ce que vous êtes, relativement à celui que nous considérons comme notre Créateur et notre Père. Il y a la prise de conscience de notre être créé, de notre âme créée, et par l'âme de notre corps aussi, puisque notre âme assume notre corps. Notre corps, il nous appartient. Oui, c'est notre avoir, très proche. C'est notre vie. Et nous la remettons à Dieu. faudrait donc te remettre à Dieu. L'adoration est une opération très qualitative dans notre journée, puisque c'est la connaissance que nous avons de n'être pas seulement notre bien, notre propriété, mais d'être relatif à un autre. Ça veut dire c'est la relation, oui, mais c'est une relation qualitative, c'est pas n'importe quelle relation. C'est une relation qui repose sur l'amour que nous avons de Dieu et ce sens de notre limite, de notre dépendance. Une dépendance très radicale. Et nous remettons à Dieu. À côté de cette relation vis-à-vis de Dieu, il y a la relation de notre frère. Nous prions en commun. Et ça fait partie de ce tissu de relations. Notre relation à Dieu ne supprime pas notre relation à nos frères. Même si nous sommes très dévots, au sens propre, tout entier relatif à Dieu, tout entier donné à Dieu, nous sommes relatifs à ceux qui sont proches de nous, à cause de notre corps. Si notre corps n'existait pas, nous pourrions être angéliques. Et à ce moment-là, on ne s'occuperait pas du voisin. On ne s'occuperait plus du lieu. Tandis qu'on s'occupe du lieu, on adore à tel lieu. Et on n'hésite pas de le faire. On est très docile à quitter sa cellule le matin et puis d'aller prier. Enfin, vous pourriez prier aussi bien chez vous. Non, on prie en commun dans un lieu. Tout ça, c'est des déterminations qui sont autour de nous, qui font partie de la présence. La présence d'un tissu de détermination. Étudiez ce que c'est que la présence de la prière en commun le matin. C'est important. Pourquoi nous ne restons pas en cellule? Un bon père jésuite resterait en cellule. Je me souviens. J'avais reçu un évêque jésuite et j'avais été lui dire le matin. Il m'a dit ah non, mon adoration, je le fais dans ma cellule, seul. Je suis habitué. Après, on a discuté. Il a dit ah oui, vous voyez, il y a deux manières d'exercer la vertu de religion dans la solitude et puis de l'autre côté, on va. Je peux étudier tout ça fait partie de la présence. Je considère que la présence avec Dieu est plus parfaite si nous sommes ensemble. C'est curieux ça, hein? Alors que c'est pas direct. Elle est plus parfaite. Pourquoi ça? Je dois étudier ça puisque je suis au niveau de la présence. Est-ce que la présence est un absolu ou pas? Je vois déjà deux modalités de la présence. Hein. Et vis-à-vis d'une présence très importante, la plus fondamentale, présence religieuse. Intéressant. Et je ne dis pas, ah, oh, les pères jésuites, c'est à cause de cette époque où l'individualisme a commencé d'une façon si forcenée, et alors ils n'ont pas su dépasser cet individualisme, et ils restent des témoins de cet individualisme de cette époque. On peut dire ça, hein, ça peut se dire, et ça se dit. Tandis que les dominicains sont nés au moment de la commune. Alors au moment de la commune, oui, on se retrouve tous sur la place, ensemble le matin, et puis on bavarde. Alors comme c'est l'oraison, on se tait. Mais enfin, c'est la même chose. On se retrouve sur la place publique, c'est l'agora. Mais notre agora religieuse, c'est l'église. Mais on se retrouve là le matin. Et on se tait parce que c'est la prière. Autrement, on jaserait tout de suite, hein, immédiatement. Et on parlerait, on serait très heureux, on raconterait ses cauchemars. Tandis que là, au contraire, on essaie de les dépasser. On a dû passer une bonne nuit, une mauvaise nuit, mais c'était très, très bon. Vous voyez la qualité. Pourquoi cette présence commune, pour nous, ajoute quelque chose par notre corps. Il faut que notre corps se sanctifie. Et notre corps se sanctifierait moins, oui, il se sanctifierait moins si nous faisions notre adoration seule, dans nos cellules. Notre corps se sanctifie plus. C'est quelquefois plus pénible, oui, c'est vrai. C'est plus agréable de la faire seule. Mais notre corps a besoin de se sanctifier. Et il sanctifie par la présence de son frère. Et si notre frère ronfle à côté de nous, parce que ça peut arriver le matin, on prie pour lui, et puis on lui tape sur l'épaule. Réveille-toi. Vous voyez, la charité fraternelle intervient dans l'oraison, dans l'adoration. Et fait que, oui, parce que force, c'est pas normal, c'est... Il est sorti de son lit, il n'a pas continué de dormir. Il n'a pas continué de dormir puisqu'il est venu. Il est venu à l'horizon, donc il faut le réveiller. Il y a des tas de choses comme ça, vous voyez, qui font partie de cette présence commune. C'est notre corps. Tout ça repose sur ce fondement plus complexe de l'adoration en communauté. Puisqu'il y a la charité, il y a le lien corporel. Et ce lien corporel fait que si on est à côté d'un ami, ah oui, la providence est bonne, elle met à côté de moi justement celui qui est mon frère bien-aimé, que j'aime tellement. Alors je regarde Dieu d'abord, c'est sûr, je l'adore, c'est d'abord Dieu, mais je dis pas que je louche, mais presque. Je comprenais, une fois, c'est arrivé, c'est pas une chose inventée de ma part. Je voyais toujours, c'était au Solchoir, chez les Dominicains, donc c'était pas ici. Hein. Mais ça pourrait arriver. Je voyais toujours, parce que j'étais père maître des frères convers, alors même dans l'oraison en arrivant, je les regardais. Ils étaient tous là. Ça faisait partie de ma responsabilité. Et je voyais toujours un frère qui se mettait face, toujours au même endroit, pas l'endroit des autres, un peu séparé. Un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu te mets là? Parce que juste en face, il y a tel frère que j'aime beaucoup. Et alors, après avoir salué Dieu, je salue mon frère, je le regarde. Et c'est mieux d'être là, c'est comme ça, dès que j'ouvre les yeux, je le vois. Je lui dis, mais alors c'est peut-être une distraction. Oh non, c'est pas une distraction. Il prie tellement bien. Alors, vous voyez, alors, j'en arrive là à la figura. Il prie tellement bien, la manière dont on est. C'est ça la figura, c'est la qualité. Et cette qualité sert de fondement à une présence qui est peut-être une distraction. Dieu seul juge. Je veux pas dire que c'était une... J'ai dit, il y a un danger. Tu aimes beaucoup ton frère et tu le vois. Ah, parce que tu aimes beaucoup ton frère et tu le vois, tu risques tous les matins de faire que l'adoration du matin, l'oraison du matin, se transforme très vite dans une présence amicale. Alors il m'a regardé, il m'a dit, ça c'est vrai, oui. Mais pour moi c'est une présence amicale, moi, le matin, quand je suis comme ça. Je suis tellement content qu'il soit là. Et le jour où il n'est pas là, ça peut arriver de temps en temps, il n'est pas là, je ne sais plus comment prier. Je l'interroge, c'est intéressant de voir ça. Ce petit phénomène, vous voyez, du lien de la prière, on est seul avec Dieu, et puis la prière commune. Alors le jésuite a raison, faites ta prière chez toi, dans le silence. Là, le Christ qui te regarde, toi, tu le regardes, et tu es obligé de le regarder, puisqu'il n'y a que lui qui te regarde. Tandis que quand il y a le voisin qu'on aime beaucoup, qui est juste en face, ah, ça arrive, hein, de le regarder, et son regard est pour moi plus visible que le regard de Dieu. Parce que si je ferme les yeux, Je ne comprends plus rien du tout. Il n'y a plus aucune détermination. Je suis dans le brouillard. Et fermer mes yeux le matin, ça m'endort. Tout de suite. Sauf que quelquefois, les gens, dès qu'on ferme les yeux, vous dormez. Mais non, je prie. C'est la présence. Fermer les yeux, c'est une présence bien plus profonde, bien plus divine, qui nous prend complètement. Alors, voyez la présence, hein? Sur quoi le fondement? À les qualités. Et c'est vraiment les qualités. L'action immanente est une qualité, l'action de Dieu, l'acte créateur de Dieu, me met en présence de lui. L'acte amical de mon ami, c'est juste en face, il se tait, on respecte le silence, c'est sûr, on se regarde. Dieu a bien fait les choses. Le regard est silencieux, donc il ne dérange personne. C'est merveilleux. On peut avoir la physionomie, je dis bien la physionomie de quelqu'un qui prie, qui adore, il est à genoux. Il ne s'asseyait pas, il était à genoux. Tous les deux à genoux. Et tous les deux se regardant. Alors je ne sais pas, Dieu n'avait plus que le corps, hein, les genoux. Il n'avait plus que les genoux par terre. La tête était tout entière polarisée par la présence de l'autre. Alors, l'acte créateur de Dieu, notre réponse, l'adoration, ou de temps en temps, l'amitié. Mais l'amitié fonde normalement une autre présence. C'est une autre présence, pas la même présence. Mais c'est encore une qualité, charité fraternelle. Et la tenue dans laquelle on se met. Et si on est fatigué, on s'assit. Parce qu'autrement, on est trop présent aux genoux. Quand vous êtes trop fatigué, toute votre présence est de rester à genoux. Et vos genoux vous font mal. Alors, de façon héroïque et stoïcienne, vous aimez mieux rester devant un acte héroïque. Puis personne ne le voit, c'est donc beaucoup plus héroïque encore que tout le reste. Dieu seul voit cette héroïcité. Et Dieu seul me voit dans cette héroïcité. Et c'est beau. Mais je ne pense qu'à mes genoux. Et je ne pense plus du tout à Dieu. Je pense que... Vous voyez, là, la différence entre ces deux présences qui se conjuguent, vont de l'un à l'autre, deux fondements très différents. Et quelquefois même, je suis à genoux, je m'assieds. Pourquoi je m'assieds? Pour que je pense moins à mon corps. Je pense moins à mes genoux. Je pense moins à la souffrance que j'ai. J'ai de l'arthrose, c'est très pénible pour moi. À genoux, assis, je trouve un petit coin et ça va. Je n'y pense plus, je peux prier. Parce que c'est pas commode, hein, de mettre la prière dans la souffrance. Cette souffrance lancinante, gênante, et qui fait que je suis présent à ma souffrance. Et quand on est présent à sa souffrance, on est seul. Parce que le voisin n'a pas l'air de bouger du tout, pas l'air du tout d'arthrose, rien. C'est merveilleux. La physionomie qu'on a. La physionomie, c'est pas seulement la figure, c'est les yeux qui regardent, c'est sûr. C'est sûr, la présence est d'autant plus forte qu'on regarde. Et souvent, cette présence-là est peut-être très forte. Mais l'autre présence est beaucoup plus grande. Quand je suis présent à Dieu, je peux être présent à mon ami de façon intérieure. Tandis que dans le regard, je ne suis pas présent intérieurement. Je suis présent visiblement. Il y a là quelque chose de très curieux. Vous voyez, vous pouvez étudier la présence d'une façon phénoménologique. Et très phénoménologique. Et c'est très intéressant. Étudier toutes ces modalités de la présence, les rendre intelligibles. C'est du vécu. C'est du vécu. Je vois bien. La preuve, c'est que de temps en temps, vous riez, ça prouve que ça rapporte à ce vécu particulier que vous avez eu. Vous avez vécu de temps en temps toute votre raison dans votre genou. Et votre genou a été l'idole. Eh bien, bien sûr, c'était tout à fait matériel, hein. C'est pas du tout formellement l'idole, pas du tout, parce que vous n'avez eu qu'un seul désir, c'est que ce mal disparaisse. Mais il vous a fixé. Il y a une fixation, ça, très curieuse. Notre corps fixe constamment. Il y a des fixations de notre corps. Et ces fixations de notre corps peuvent nous prendre complètement, on est complètement fini, parce que c'est le sensible et l'intelligible. Et c'est propre à nous. En plus de ça, ce qui est encore une petite manière coquette de se regarder. Parce qu'on est seul. On est seul à voir ça. Et le corps permet la communauté, le corps permet d'être ermite, solitaire. Tout ce qui passe à travers votre corps, c'est solitaire. Non, mon voisin ne voit pas. Si c'est trop fort, il voit que je rougis, mais ça, c'est rare. Dans mon oraison le matin, et dans le regard de l'autre, bon, je peux faire la phénoménologie de la présence. Alors, est-ce que je suis en présence de l'être? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça? Il y a une certaine unité de cette présence. C'est toujours moi, du reste. Ah, c'est vous. C'est peut-être votre substance, alors. Ah. Voilà. Mais voilà l'unité. C'est vous. Vous êtes dans votre genou. Vous êtes dans votre mal à tête. Vous êtes dans votre bras qui vous fait mal. Vous êtes dans votre cœur qui se réjouit de voir. Ah, mon ami. Et puis plus profondément, de t'entendre Dieu, oui, Dieu, je suis là pour lui, c'est sûr, je suis là pour lui. Et c'est moi, c'est toujours moi. Donc, le moi fait l'unité de la présence. Le moi fait l'unité de la présence de l'autre. Et ce moi, il se partage, il est de temps en temps dans mon genou. C'est bien mon genou. Je le dis, c'est mon genou qui a mal. Et c'est très curieux, quand il a mal, il est encore plus mien. Ah, voyez le caprice. Ah, c'est extraordinaire, ça. Ah, voilà, j'ai trouvé. Pour faire attention à moi, je souffre. Caprice. Je retourne sur moi. Mon genou, habituellement, quoi. Quand je vous parle, je pense pas à genou. Je suis pas du tout dans mon genou, maintenant. Mais si je vous parlais tant à genou, au bout d'une demi-heure, j'aurais peut-être mal à mon genou. Alors à ce moment-là, je penserai à mon genou. Vous voyez, il est mien. C'est curieux, dès qu'il y a une partie de mon être qui souffre, elle est mienne. D'une façon très... Et elle est mienne d'une façon terriblement accaparante. Elle est mienne, et elle m'accapare, elle me prend, elle me saisit. Vous voyez, mon moi, c'est curieux, mon moi, il se loge dans mon genou, il se loge dans mon cœur. Ah oui, ça, je t'aime très, très profondément. C'est mon cœur. Personne ne le voit, tu sais ça. Ça, c'est invisible. Et j'aime mieux fermer les yeux pour que mon moi soit encore plus moi. Si j'ai fermé les volets, et personne ne voit. Mon moi est dans mon intelligence. Je me rappelle. Et dans ma mémoire, je me rappelle. Je me souviens de tout ça. Alors au fond, l'être, c'est moi. Dans la présence. Et très, très intéressant, ça. Husserl dit des choses comme ça. Le moi, c'est ma présence. Et c'est le moi qui fait l'unité. Et je suis sujet de cette unité. Oui, voilà. Ah, donc, il y a le moi conscient, et puis il y a le sujet matériel. Ils aboutissent à ça, au point de vue logique, pour essayer de préciser ce que c'est que la personne, pour être en présence de quelqu'un. Il y a le moi conscient. Pour être présent, j'ai besoin de la conscience. Tant que je ne suis pas avec ma conscience, ça ne va pas. Et plus je suis présent, plus ma conscience prend tout. Et puis il y a le sujet. Je vois bien, c'est moi. Mais c'est pas moi conscient, le sujet. C'est le moi matériel. Le moi matériel qui fait aussi un lien. C'est curieux. Qui fait aussi un lien. Je vois la différence entre mon moi matériel qui est à genoux par terre, ce qui fait froid par terre. Oh, c'est de la pierre. Quand c'est du bois, ça va. Puis quand il y a un petit tapis à la prière, parce qu'il y a un petit tapis à la prière, c'est tellement agréable pour les genoux. Tu vois, ce petit tapis à la prière, c'est pour ça que c'est le tapis à la prière. Et j'aime la prière parce qu'il y a ce tapis, vous voyez. Alors, c'est... Et puis, il y a la chaise à la prière. Oui, alors ça. Je connaissais quelqu'un qui n'avait que des extases que dans son fauteuil. Je vous affirme, il m'a dit ça très sérieusement. Je n'ai des extases que quand je suis dans mon fauteuil. Quand je suis en dehors de mon fauteuil, je n'ai pas d'extase. C'est pour ça que le sujet, il colle au vêtement, il colle à la chaise, il colle à la pierre. Ça, c'est la fusion. Il est tellement collé, sa fusion. Là, on peut faire... Au fond, Husserl arrive quand il réfléchit sur la personne, ça. Et je vois très bien comment je peux y arriver. Et c'est bon d'y arriver. Mais qu'est-ce que c'est que l'être ? Ça, c'est glacial, hein ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? Ce n'est plus mon fauteuil. C'est plus le sujet. C'est pas ma conscience. Oh, je croyais que j'étais arrivé. Mais c'est intéressant de voir qu'au fond, d'une manière purement phénoménologique, en réfléchissant sur ma conscience de mon corps, j'ai conscience dans mon corps. Si je pèse très lourd, j'ai conscience sur la lourdeur de mon corps. Je sais que je dois faire attention à la chaise sur laquelle je m'assieds. Surtout quand je suis un étranger. Parce que c'est tellement lourd que ça va l'écraser, sans doute. Jamais quelqu'un d'aussi lourd que moi n'a été sur cette chaise. Alors, cette chaise, elle est très galante, mais... Puis ça arrive, hein. Quelqu'un de moi... Vite, se relève. Cette chaise, c'est pas très solide. Il faut pas l'écraser. J'ai conscience de mon corps, de la lourdeur de mon corps, de la légèreté de mon corps, de la souplesse de mon corps. Toutes les qualités, hein, communes que je connais bien. De la netteté de mon regard. Au contraire, mon regard vieillit, je vois plus. La parole du vieux Jacob. Mon regard commence à s'abaisser. C'est le signe de la vieillesse. Le regard commence à baisser. Le corps qui n'a plus la même souplesse. Tout ça, c'est phénoménologique. Et ce sont des qualités de mon corps, de mon intelligence. C'est ma physionomie. Pas la même chose. Il y a certaines personnes qui ne peuvent prier qu'à genoux. Ça m'a déjà été dit, ça. C'était des novices. Ils disaient, quand je suis assis, je ne peux plus prier. Alors, je disais, mais alors quand vous voyez un vieux père assis, vous dites, ah, il ne prie pas, il se repose. Enfin, attention, hein. Je ne suis pas moulé à mon corps. Mes intentions peuvent être au-dessus de mon corps. Je peux très bien avoir la même intention, mais exactement la même intention d'adorer Dieu en étant à genoux, en étant debout, en étant assis. Vous voyez, je vois tout de suite la très grosse différence entre l'intention intérieure, c'est l'expérience intérieure, et le corps, c'est l'expérience extérieure. Ah ça, oui. Vous êtes assis sur une chaise. Cette chaise est bonne. C'est pas trop dure. C'est ni du bois, ni de la pierre. Je suis assis sur de la pierre, vous pensez trop longtemps, surtout en hiver quand il fait très très froid. Parce qu'alors le froid monte et ça risque de me geler complètement. Je fais la différence, vous voyez, dans ma conscience, très nettement. Alors, est-ce que c'est cela qui va me répondre ? Mais c'est très intéressant de rester au moi et rester au sujet. Parce que si je prends maintenant une démarche objective, une démarche objective, celle que prenait Aristote. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Je prends ce qu'on a appelé les 10 prédicaments. Est-ce que l'être, c'est la relation ? La relation est de l'être, c'est sûr. Surtout la relation amicale. Je vous affirme que celui qui priait le matin en face de son ami La relation, ça comptait. C'était pas rien du tout. La relation amicale compte. C'est pas du conventionnel. C'est quelque chose qui touche mon cœur et qui me fait du bien. Et là, je peux rester longtemps. Une demi-heure auprès de mon ami, c'est peu, c'est peu. Le temps passe très vite. Tandis qu'autrement, si je m'ennuie, le cours, c'est long. Ça dure une heure. J'y comprends rien. Là, c'est dur. C'est long. La relation. Aristote dit, et on verra ce que c'est que la relation. Mais ici, c'est la description. La relation, c'est un être très particulier, parce qu'il n'existe que si l'autre est là. Alors, dans la relation, j'aime l'autre. Puisque je n'existe, la relation n'existe que grâce à lui. Je ferme les yeux, il était assis à côté de moi. Je ferme les yeux, je continue de prier, je continue de l'aimer, et puis, en faisant grande attention, il disparaît. Je rouvre les yeux, au bout d'un quart d'heure, il n'est plus là. Je ne me suis même plus aperçu qu'il n'était plus là. Oui, la relation. Il y a quelque chose qui a disparu, la relation réelle à côté de lui, elle a disparu sans que je m'en aperçoive. Ça, c'est la néantisation de la relation. La relation se néantise sans que je m'en aperçoive. C'est très important, ça, de voir que c'est la relation qui se néantise. Les autres choses, ça ne se néantise pas. Les autres qualités. La physionomie d'un être, ça ne se néantise pas du tout. Je sais très bien quand je suis à genoux, quand je suis assis, quand je suis debout. J'ai conscience de ça. Le jour où j'en ai plus conscience, ça devient dangereux. Et je m'en aperçois et je dis, c'est dangereux. Et puis il y a l'autre qui dit, mais tu n'es plus à genoux, tu es assis. Et tu ne t'en aperçois pas, mais tout le monde s'en aperçoit. Ils sont tous à genoux, puis tout d'un coup on se lève. Tiens, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il s'en aperçoit pas. Normalement, on s'aperçoit de tout ce qui se passe dans notre corps, de cette manière-là. Les qualités. Alors ça ne peut pas se néantiser. Ça peut changer, mais ça ne se néantise pas. Ça peut se refroidir, mais ça ne se néantise pas. Ça peut devenir glacial, mais ça ne se néantise pas. La présence d'un iceberg, ça se sent. On est devant de la glace. Quand on entre dans un frigo pour aller attraper quelque chose, on se dépêche à toute vitesse, mais c'est froid. La chambre froide. Je peux me poser la question, est-ce que la qualité est ce qu'il y a de primordial? Les qualités, je constate. Ma physionomie est une qualité. C'est la dernière des qualités, puisqu'elle implique beaucoup la quantité, mais c'est quand même une qualité, c'est une manière d'être. Est-ce que c'est ça qui est premier? Non, je dis bien, c'est une manière d'être. Et la qualité vient s'ajouter ou se retirer, et je suis toujours le même. Je suis avec du moins, avec un manque. Ça exprime très bien ça, avec un manque. Le manque d'une qualité. Au contraire, je suis bien, bien moi, parce que je demeure dans ma qualité. La qualité me permet de demeurer en moi agréablement. Et demeurer en moi, ce n'est pas ce qui est l'être. C'est encore moi qui me dédouble. Je demeure en moi, ou je demeure en l'autre, dans la qualité. L'action, c'est pas ce qu'il y a de principal en moi, parce que ça s'ajoute. Aujourd'hui, j'ai été pris toute la journée. J'étais pris tout le temps, tout le temps. Ah, j'ai besoin de m'arrêter. Ah, pourquoi avez-vous besoin de vous arrêter? Pour me retrouver, moi-même, calmement, paisiblement. L'action, c'est trop agitant. Et pâtir aussi, c'est encore plus. Je reçois la douche de quelqu'un qui me corrige, ça ne doit pas durer trop longtemps, parce que je n'ai pas trop de patience. Mais on sait bien, pâtit, c'est pas moi tout ça. Prenez la liste des 10 prédicaments. C'est une trouvaille extraordinaire, les 10 prédicaments. tous les prédicaments, donc qualité, quantité, relation, action, passion, figura, situs. Et puis alors, la substance, le sujet qui reçoit tout ça, qui reçoit toutes ces qualités, elle peut les recevoir. Je vois que toutes ces qualités, que tous ces attributs qui m'appartiennent, est-ce que c'est l'être ? Oui, non. Puisque chacune a un petit morceau de l'être, si j'ose dire. Quelque chose de l'être. La relation existe. La qualité existe. La quantité existe. La figura existe. Tout ça existe. C'est pas l'être. Et là, c'est une chose objective, hein, c'est plus ma conscience. C'est ce que je vois dans mon ami et ce que je vois en moi. Et c'est intéressant, je vois que la phénoménologie me met par, à travers ma conscience, à travers mon vécu, tout ce que le philosophe, lui, découvre objectivement. Les 10 prédicaments, c'est une trouvaille d'Aristote. C'est difficile d'en ajouter un de plus, parce qu'il y a un dernier prédicament, c'est l'avoir. Ben, j'ai quelque chose, c'est pas mon être. Et mon corps est à la fois mon avoir et mon être. Ce qui fait la situation du corps unique. Hein. Parce que j'ai mon corps, oui, avoir, j'ai mon corps, c'est mon corps. Donc c'est mon avoir. C'est ma guenille, si vous voulez, mais elle m'est chère. Bon, parce que c'est quand même mon corps. Et mon corps, c'est pas le corps d'un imbécile, hein, c'est mon corps. Donc il est qualifié, il a quelque chose de bien. Et puis il est unique. J'ai un nez unique. J'ai des yeux uniques. J'ai une bouche unique. Tout. C'est unique, mon corps. Et mon corps, il est tout à fait singulier. Donc, s'il disparaît, que s'il disparaît. Donc, je peux regarder objectivement tout mon avoir, tout ce que je suis. Je me pose la question, qu'est-ce qui est premier dans l'être ? Alors, ce qui est premier dans l'être, c'est jamais l'attribut. C'est jamais ce qui est attribué à un sujet. C'est donc le sujet. Ah tiens, je rejoins ce que j'avais dit dans la perspective de la recherche de du vécu. Ce que dit Husserl, c'est le sujet, oui. Donc des deux côtés, on a le sujet. Et puis en même temps, les attributs, c'est aussi de l'être. Alors quel est l'attribut principal ? Ah, l'attribut principal, c'est ce que vous dites, Pierre, c'est le sujet. Pierre, il est un homme. Tiens, c'est vrai. C'est l'attribut principal. Pierre est homme. Quand je dis Pierre a un nez, ça c'est l'avoir. Mais l'être, il est homme. Je ne dis pas Pierre a l'homme. Non. Est-ce que Pierre a l'homme ? Non, il est homme. Hein, quelle différence ? Être et avoir. Intéressant, ça. Vous voyez, si je recherche qu'est-ce que c'est que l'être, je vois les 10 prédicaments qui s'attribuent à un sujet. Et puis il y en a un particulier qui est ce que la logique appelle l'espèce. Pierre est homme. Je dis bien Pierre est homme. Et donc si je cherche l'être, c'est bien cet attribut que je regarde en premier lieu. Et ce sujet que je regarde en premier lieu. Donc, dans une vision objective, par les prédicaments, j'aboutis à deux. Le sujet et l'attribut. Pierre, homme. Comme j'ai eu le sujet et le moi. Bon, après tout, moi, c'est peut-être homme. Parce que dans homme, il y a raisonnable. Et raisonnable, qu'est-ce qui conçoit le mieux ? Qu'est-ce qui est le plus raisonnable en moi ? Qu'est-ce qui est le plus raisonnable en moi ? C'est moi. Ça, c'est bien évident. C'est moi qui suis le plus raisonnable en moi. Cherchez quelque chose de plus raisonnable en vous. C'est moi. C'est vous. Alors, c'est curieux. On aboutit par ces deux voies tout à fait différentes. Une aristotélicienne, l'autre, qui est tout à fait moderne. J'aboutis à voir ces deux. Puis-je rester dans ces deux ?